Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite un bon début d'année 2009 et je vous félicite d'avoir résisté à l'épidémie de grippe contre laquelle nous luttons tous. Alors, ce soir, avant d'entamer la reprise de la dernière conférence de Cathy Langelet, je voudrais vous annoncer un petit changement dans l'agenda qui ne concerne ni les dates ni la chronologie, la façon dont on va lire le séminaire, mais qui concerne deux conférenciers. Nous avions normalement le 30 mars Bernard Sénave qui venait nous parler du phallus dentatus et le 20 avril Yves van der Wecken qui venait nous parler de la métaphore paternelle et de la métaphore phobique. Eh bien, les deux conférenciers vont inverser leur venue au cycle. Donc, on rencontrera d'abord Yves van der Wecken, Bernard Sénave ne pouvant être présent le 30 mars. Donc voilà, c'est juste une interversion de conférenciers que je rappellerai si nécessaire juste avant la venue de Yves van der Wecken. Alors, je vais reprendre, comme à l'habitude, les points principaux de la dernière conférence qui avait été donnée par Cathy Langelet. Elle a d'abord présenté, au fond, ce qui se passe au seuil de l'Œdipe, en nous précisant que pour pouvoir finalement traverser ce complexe d'Œdipe, il fallait que l'enfant, fille comme garçon, ait ce qu'elle appelle un prérequis. Et ce prérequis, c'est d'avoir le phallus installé comme signifiant. C'est un outil, au fond, ce phallus pris comme signifiant dans le symbolique, et non plus comme un pénis réel ou imaginaire. C'est un outil qui va aider l'enfant à traverser le complexe d'Œdipe, à la sortie duquel il devra se trouver à la rencontre de ce qu'est au fond la fonction paternelle et de ce qu'elle représente. Et cette fonction paternelle, on le verra, elle nous montrera qu'elle prend des atours divers selon qu'on la décline sur le plan réel, sur le plan symbolique ou sur le plan imaginaire. Donc, Cathy Langelet nous dit qu'il faut que ce qui jusque-là était réel ou imaginaire, c'est-à-dire le pénis, devienne un signifiant pour le sujet, c'est-à-dire qu'il entre dans l'ordre symbolique. Elle nous rappelle le jeu du Forda, les jeux de présence-absence des enfants, qui permettent ce passage à la symbolisation. C'est ce que Freud nomme, dit-elle, l'organisation génitale infantile, qu'on retrouve dans son volume, donc La vie sexuelle. C'est un chapitre de ce volume, en 1923. Elle illustre aussi, au fond, comment se déplient les différents registres symboliques, imaginaires et réels, autour de la lecture d'extraits du mythe d'Isis et d'Osiris, qui a été retranscrit par Plutarque, et que vous trouvez édité en un petit volume. Ça fait partie d'une plus grande œuvre de Plutarque, mais on peut se procurer seul ce volume-là. Donc, nous dit-elle, elle en vient au fait de savoir qu'est-ce qui différencie, quelle est la différence pour les filles et les garçons par rapport à ce complexe d'Œdipe. Et au fond, tout se situe au niveau du complexe de castration, qui est la base de toutes les différences entre les filles et les garçons, nous dit-elle. Et elle nous indique à ce sujet, dont j'ai noté les références, la disparition du complexe d'Œdipe, toujours dans La vie sexuelle. Chez le garçon, le complexe d'Œdipe sombre sous l'effet du complexe de castration. On parle pour lui de menace de castration, alors que chez la fille, le complexe d'Œdipe est rendu possible et est introduit par le complexe de castration. Donc, la fille, on parle de castration accomplie. Pour les deux, la fille et le garçon, il s'agit qu'ils aient ce prérequis du phallus comme signifiant, comme je viens de le dire. Puis, on trouve un déroulement des temps différents selon qu'on se situe du côté du garçon ou du côté de la fille. Du côté du garçon, Le premier temps, c'est le temps de la mère investie comme objet d'amour. Le deuxième temps, c'est le temps de la mère qui énonce la menace de castration. La mère ou une femme, enfin Cathy Langelais, nous fait remarquer que ça vient souvent du côté féminin, ce genre de menace, attention, tu vas le perdre, et des choses comme ça. Le troisième temps, c'est le temps de l'identification au père. Ça, c'est du côté du garçon. Chez la petite fille, eh bien, au fond, il y a déjà un problème au départ, c'est que la mère est aussi son premier objet d'amour. Alors pourquoi devrait-elle s'en détourner ? Puisqu'au fond, elle ne lui est pas interdite, d'une certaine façon. Le premier temps chez la fille, c'est donc l'envie du pénis et ses conséquences. Cathy Langelais en a nommé trois, que je vous redis brièvement. Un sentiment d'infériorité chez la fille qui s'installe. Une jalousie, puisqu'elle ne l'a pas. Et puis, surtout, elle rend responsable la mère de ce manque de pénis. Un deuxième temps, où elle doit renoncer au désir du pénis, mais elle le remplace par le désir d'enfant. Elle met l'enfant à la place du pénis. Elle établit une équivalence. Enfin, sortir de l'Œdipe pour la fille est quelque chose qui peut, à la limite, ne pas se faire tout à fait dans sa vie de femme. Il n'y a pas un motif à la destruction complète du complexe d'Œdipe, puisque la castration a déjà produit son effet. Cathy Langelais nous indique que ces deux traversées différentes pour la fille et le garçon ont des conséquences cliniques dans la vie des couples. Elle en nomme quatre, que je vous rappelle aussi rapidement. Ça peut être une diminution, voire une disparition complète de la vie sexuelle après le mariage, après l'installation en ménage et la naissance d'un enfant. Ça peut être aussi la misogynie et le mépris qui restent comme un reste au fond de la position de l'homme, mais qui est reprise au compte même de la femme. C'est-à-dire qu'elle peut projeter ça sur d'autres femmes, mais au fond, elle se l'attribue à elle-même également. Il y a aussi le temps des reproches évoqué à la mère, et Cathy Langelais nous en avait donné nombreux exemples. Et ces reproches sont souvent, dit-elle, lorsqu'ils sont virulents et nombreux, adressés dans un deuxième temps au conjoint. Il y a enfin la jalousie qui vient donc de l'idéal de monogamie chez la femme. Elle nous a aussi donné deux références dans cette partie-là que je vous ai notées au tableau, qui est donc la revue de la cause freudienne numéro 40, dont le titre général est « Les maladies d'amour », mais dont le texte écrit par Jacques-Alain Miller et dont elle s'est servie pour illustrer sa conférence s'appelle « Le répartitoire sexuel ». Et il y avait aussi une lecture d'extrait d'Alice Fernet, « La conversation amoureuse » chez Actes Sud. En fin de tout ça, doit s'en suivre, comme résultat de l'opération oedipienne, si elle est réussie, la production, somme toute, du père et de la fonction du père. Elle permet au sujet de se situer par rapport à cette fonction du père. Elle permet aussi au garçon qu'il puisse accéder à cette position paradoxale qui est être un père. Un père, dit-elle, c'est quelqu'un qui répond, ne fût-ce qu'une fois, au niveau réel. Un père symbolique, nous explique-t-elle, est impensable proprement. Un père ne peut pas dire « je suis celui qui est ». Un père imaginaire, c'est celui à qui nous avons tout le temps affaire. C'est un père auquel on adresse toute la dialectique de l'agressivité, de l'identification ou de l'idéalisation. Et le père réel, c'est celui qu'on a le plus difficile à saisir, celui qui se cache derrière le père imaginaire et qu'on peut appréhender au détour d'un vécu, j'ai envie de dire. Mais c'est très important, nous dit-elle, que ce père réel, au moins une fois, fasse fonction saillante dans la vie de l'enfant et qu'il se dévoile d'une certaine façon. Et s'il n'est pas là, l'enfant pourra trouver une substitution à son absence éventuellement. Elle a terminé sa conférence en nous donnant déjà en jetant un pont vers le séminaire 5, vers le séminaire suivant, où au fond, nous dit-elle, Lacan envisage les trois temps de l'Œdipe du côté du père. Ces trois temps étant d'abord le temps de l'identification, donc le premier temps, le temps de l'identification du sujet en miroir à l'objet du désir de la mère, c'est-à-dire au phallus imaginaire. Donc c'est un temps de relation d'amour à la mère et du père comme présence, simplement. Le deuxième temps, c'est le temps qui prive, c'est le temps du père qui prive, le temps qui interdit. Alors, et elle fait remarquer que ce temps-là, chez Lacan, finalement, n'est pas un temps que Lacan a mis fort en évidence. Ce n'est pas une position qu'il a défendue comme tant importante. Par contre, il insistait beaucoup plus sur le troisième temps, qui est le temps du père qui dit oui, c'est-à-dire le père qui donne et qui promet. Et c'est la permission qui est le concept fondamental chez Lacan, plutôt que l'interdiction du côté du père. Voilà, je pense qu'en vous disant ça, j'ai résumé la conférence de Cathy Langelet. Alors, nous accueillons aujourd'hui Béatrice Brault, qui va nous parler des séances 14 et 15 du séminaire 4, sous le titre « La phobie et le monde ». Béatrice Brault est psychologue et psychanalyste. Elle travaille principalement dans une maison de petite enfance à Valenciennes. C'est une maison, m'a-t-elle expliqué, qui accueille des enfants de 0 à 6 ans en internat, donc des enfants qui ne rentrent pas chez eux et qui sont tous placés par décision judiciaire. Alors, d'autre part, vous recevez également en consultation ici à Mons. Je vous cède la parole.
Ça marche. Voilà. Donc, je vais vous présenter ce soir les deux chapitres, donc 14 et 15. Le premier, donc, le signifiant dans le réel. Le second, à quoi sert le mythe. Commençons par le chapitre 14, où il est question de la lettre volée. Plus précisément, du réseau de la lettre volée. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un commentaire et d'une analyse faite par Lacan d'une des histoires extraordinaires d'Edgar Poe, s'intitulant « La lettre volée », qui a été traduite par Baudelaire. Un premier article de Lacan à ce sujet paraîtra dans une revue intitulée « La psychanalyse numéro 2 » en 1955, avec le fameux schéma L que j'ai retracé au tableau. Parallèlement, l'année de son séminaire 2, le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, en 1954-55, Lacan consacre quelques séances à l'étude de la lettre volée, notamment dans les chapitres 15 et 16. Enfin, ce sont dans les écrits que nous trouvons l'intégralité du séminaire sur la lettre volée, avec 4 parties. Je les explique un petit peu parce que, quand on regarde ça, on peut croire que ça a été mis de manière un petit peu particulière. Donc, dans les écrits sur la lettre volée, on trouve premièrement la réécriture en 1956 de ce qui est transmis dans le séminaire 2, dans les deux chapitres que je vous ai indiqués tout à l'heure. La deuxième partie s'intitule « Présentation de la suite », qui est parue seulement en 1966. En troisième partie, nous trouvons l'introduction avec le schéma L, qui est une reprise de l'article que je vous ai cité tout à l'heure dans la psychanalyse numéro 2 en 1955. Et enfin, quatrième partie, c'est un ajout qui s'appelle « Parenthèse des parenthèses » qui a été publié donc en 1966. Alors, pour ceux qui n'ont pas du tout eu connaissance de l'histoire de Poe, la lettre volée, à moins que tout le monde la connaisse. Non. Donc bon, je vais prendre 2-3 minutes, ça en vaut le coup, sinon on risque de rien comprendre. Je vais vous lire un résumé qui d'ailleurs a été fait Lacan dans le séminaire 2. Donc je ne vais pas tout lire, mais une bonne partie du résumé qu'il fait. Donc on trouve ça dans le séminaire 2, pages 228 et 229. « Donc, je lis Lacan. Hein. « Je pense que vous savez quand même qu'il s'agit de l'histoire d'une lettre volée, dans des circonstances sensationnelles et exemplaires, que vient raconter un malheureux préfet de police, lequel joue le rôle classique dans ces sortes de mythologies, de celui qui devrait trouver ce qu'il y a à chercher, mais qui ne peut que se fourvoyer. Bref, ce préfet vient demander au nommé Dupin de le tirer d'affaire. Dupin, lui, représente le personnage plus mythique encore de celui qui comprend tout. La scène se passe en France sous la monarchie restaurée. Un ministre, lui-même homme de haut rang, d'une grande désinvolture sociale, et qui a la confiance du couple royal, puisqu'il se trouve à parler des affaires de l'État dans l'intimité du roi et de la reine. Surprend l'embarras de cette dernière, la reine, qui vient d'essayer de dissimuler à son auguste partenaire la présence sur sa table de quelque chose qui n'est rien de moins qu'une lettre. Lettre dont le ministre repère tout de suite la suscription et le sens. C'est d'une correspondance secrète qu'il s'agit. Si la lettre reste là, jetée indifféremment sur la table, c'est précisément pour que le roi ne remarque pas sa présence. C'est sur son inattention, sinon sur son aveuglement, que joue la reine. Le ministre, qui, lui, n'a pas les yeux dans sa poche, repère ce dont il s'agit et se livre à un petit jeu qui consiste d'abord à amuser le tapis, puis à sortir de sa poche une lettre qu'il se trouve à voir et qui a vaguement l'apparence de l'objet de cette autre lettre. Après l'avoir maniée, il la pose négligemment sur la table à côté de la première lettre. Après quoi, profitant de l'inattention du personnage principal, la reine, il ne lui reste plus qu'à prendre celle-ci tranquillement et à la mettre dans sa poche sans que la reine puisse faire autrement que de se résigner à voir partir sous ses propres yeux le document compromettant. La reine veut à tout prix récupérer cet instrument de pression, sinon de chantage. Elle met en jeu la police parce qu'elle est faite pour ne rien trouver, ne trouve rien. Et c'est Dupin qui résout le problème et découvre la lettre là où elle est, c'est-à-dire dans l'appartement du ministre, à l'endroit le plus évident, à portée de main, à peine déguisé. Assurément, il semble qu'elle n'aurait pas dû échapper aux recherches des policiers, puisqu'elle était comprise dans la zone de leur examen microscopique. Pour s'en emparer, Dupin fait tirer un coup de feu à l'extérieur, tandis que le ministre va à la fenêtre pour voir ce qui se passe, Dupin va à la lettre et lui substitue rapidement une autre. Bien, je m'arrête là. Donc, en 1955, nous sommes au premier temps de l'enseignement de Lacan, où il essaye d'introduire la dimension du symbolique. Nous sommes donc encore dans la relation imaginaire du moi à l'autre. Je relèverai dans cette histoire de la lettre volée et dans l'analyse faite par Lacan deux points essentiels qui nous intéressent ici pour ce soir. Il y aurait encore beaucoup à dire sur cette lettre volée, mais je ne vais pas tout reprendre. Je vais juste reprendre ce qui nous intéresse par rapport aux deux chapitres que je commande ce soir. Le premier point, j'intitulerai excusez-moi, le jeu de père et impair. Le deuxième point, la lettre détournée qui circule. Alors, le premier point, le jeu de père et impair, est tiré de l'histoire donc d'Edgar Poe. Ce passage se trouve juste après la remise par Dupin de la lettre au préfet. Le narrateur relate la discussion entre Dupin et le préfet sur le « comment se fait-il que la police parisienne n'ait pas pu mettre la main sur cette lettre ?» Pour mettre en avant que plus d'un écolier raisonnerait mieux que le préfet, Dupin conte l'histoire d'un enfant de 8 ans dont l'infaillibilité au jeu de père-impair faisait l'admiration universelle. Je vais vous lire un petit passage, c'est assez court. Donc on trouve ça hein, dans la lettre volée d'Edgar Poe. Alors, ce jeu est simple. On y joue avec des billes. L'un des joueurs tient dans sa main un certain nombre de ces billes et demande à l'autre « père ou impair ?» Si celui-ci devine juste, il gagne une bille. S'il se trompe, il en perd une. L'enfant dont je parle gagnait toutes les billes de l'école. Naturellement, il avait un mode de divination, lequel consistait dans la simple observation et dans l'appréciation de la finesse de ses adversaires. Supposons que son adversaire soit un parfait nigaud, et levant sa main fermée, lui demande « père ou impair ?» Notre écolier répond « impair » et il a perdu. Mais à la seconde épreuve, il gagne car il se dit en lui-même « le niais avait mis père la première fois et toute sa ruse ne va qu'à lui faire mettre impair à la seconde. Je dirais donc impair. » Il dit impair et il gagne. Maintenant, avec un adversaire un peu moins simple, il aurait raisonné ainsi. Ce garçon voit que dans le premier cas, j'ai dit impair, et dans le second, il se proposera, c'est la première idée qui se présentera à lui, une simple variation de pair à impair, comme a fait le premier bêta. Mais une seconde réflexion lui dira que c'est là un changement trop simple. Et finalement, il décidera à mettre pair comme la première fois. Je dirais donc pair, il dit pair et gagne. Maintenant, ce mode de raisonnement de notre écolier, que ses camarades appellent la chance, en dernière analyse, qu'est-ce que c'est ? Demande Dupin. Le narrateur répond : c'est simplement, dis-je, une identification de l'intellect de notre raisonnement avec celui de son adversaire. Dupin répond : c'est cela même. Et quand je demandais à ce petit garçon par quel moyen il effectuait cette parfaite identification qui faisait tout son succès, il me fit la réponse suivante. Quand je veux savoir jusqu'à quel point quelqu'un est circonspect ou stupide, jusqu'à quel point il est bon ou méchant, ou quelles sont actuellement ses pensées, je compose mon visage d'après le sien. On voit bien la relation à April. Mais l'auteur poursuit dans Edgar Poe, hein, en précisant que l'identification à l'autre, et notamment quand il y a une mauvaise appréciation de l'intelligence de l'autre, quand il se trouve un malfaiteur particulier dont la finesse diffère de la leur, ce malfaiteur, naturellement, les roule. Dans ce jeu, le sujet adopte une position en miroir, purement imaginaire, qu'on retrouve sur le schéma L, pouvant donc mener à l'échec, à l'impasse. Lacan, lui, que dit-il de cela ? Dans les écrits, page 59, je le cite. Nous ne dirons pas cependant que la voie de l'identification imaginaire à l'adversaire à l'instant de chacun des coups soit une voie d'avance condamnée. Nous dirons qu'elle exclut le procès proprement symbolique qui apparaît dès que cette identification se fait non pas à l'adversaire mais à son raisonnement qu'elle articule. Le fait prouve d'ailleurs qu'une telle identification purement imaginaire échoue dans l'ensemble. Le recours de chaque joueur, s'il raisonne, ne peut se trouver qu'au-delà de la relation duelle, c'est-à-dire dans quelques lois qui président à la succession des coups qui me sont proposés. Lacan explique qu'à travers ce conte de Poe, nous y trouvâmes, je le cite, une faveur que notre notion de détermination symbolique nous interdirait déjà de tenir pour un simple hasard. Edgar Poe, en bon précurseur qu'il est des recherches de stratégie combinatoire, avait été guidé, en sa fiction par un dessein pareil au nôtre, dit Lacan. Lacan souligne que tous les exemples de combinatoire explicités dans les premières pages du chapitre 14 de ce soir, avec toutes ces séries de plus, de moins, d'alpha, bêta, que je ne reprends pas là, parce que j'ai trouvé que c'était plus simple de partir de l'exemple d'Edgar Poe avec ce jeu de pair et impair. Je crois que ça aurait occupé toute la séance. Donc, je reprends. Donc, Lacan souligne que tous les exemples de combinatoire et aussi l'exemple de la lettre volée de Poe montre que dès le surgissement le plus élémentaire du signifiant, la loi surgit, indépendamment de tout élément réel. Cela ne veut pas dire du tout que le hasard soit commandé, mais que la loi sort avec le signifiant, de façon interne, indépendante de toute expérience. Il est dès lors certain que l'ordre symbolique, en tant que distinct du réel, entre dans le réel comme un soc et y introduit une dimension originale. Donc j'ai dessiné, je ne sais plus où, ce petit schéma tout là-haut, là, où j'ai dessiné le cercle donc, du réel, avec le symbolique qui rentre comme un soc. Alors, j'ai dessiné le schéma en dessous, dont on ne va pas parler ce soir, parce que certains ont peut-être déjà vu ce petit schéma, mais ça, à ne pas confondre, ça c'est dans un second temps, c'est plus tard, dans un enseignement plus tardif de Lacan, qu'on parlera du réel qui est un trou dans le savoir. Donc, moi, je vous parle du schéma du haut, des deux cercles, le cercle du réel, avec le symbolique qui est là comme un soc. Donc, le langage détermine bien le sujet. Il fait, en quelque sorte, loi pour le sujet. C'est bien pourquoi l'analyste opérant sur le registre de la parole doit tenir compte de cette originalité, c'est-à-dire de ce qui fera la singularité de chaque sujet en partant de leur signifiant. Nous percevons déjà là une différence importante entre les psychanalyses de courant analytique qui pratiquent uniquement au regard de l'axe imaginaire, où d'ailleurs il est surtout question d'être identifié à l'autre, au moi de l'autre, et non pas de chercher chez l'analysant ce qui fait sa singularité déterminée par son rapport au langage et par le surgissement symbolique des signifiants du sujet dans le réel. Tout ça, c'est pour commenter toujours ce petit schéma avec les deux cercles. Hein. Alors, Dupin, il trouvera cette lettre, pourquoi ? Ben, au fond, parce qu'il se décale de la relation imaginaire intersubjective. Alors, le deuxième point autour de la lettre volée que je voulais commenter, je l'ai intitulé « La lettre détournée qui circule ». Lacan, page 29 des écrits, dit que Baudelaire a mal traduit le titre « La lettre volée ». Pour être plus précis et plus proche de la signification de Pau, il aurait dû traduire par « lettre détournée ». Car, c'est bel et bien, dit-il, la lettre détournée qui nous préoccupe, celle dont le trajet a été prolongé. Elle a subi un détour, un trajet qui lui est propre. Dans ce conte, cette histoire, au fond, la lettre, son contenu, l'expéditeur même, n'ont pas tellement d'importance dans le conte. Vous pourrez lire tout le conte, vous verrez, on en parle sur quelques phrases, c'est pas ça l'essentiel. Nous savons seulement que cette lettre est l'objet d'un chantage. Elle est donc devenue, dira Lacan, un symbole qui se déplace à l'état pur, de main en main, d'une personne à l'autre. On ne peut pas toucher à cette lettre sans être aussitôt pris dans son jeu. Page 231 du séminaire 2, Lacan dit ceci. Quand les différents personnages s'emparent de cette lettre, quelque chose les prend et les entraîne qui domine de beaucoup leur particularité individuelle. Pour chacun, la lettre est son inconscient avec toutes ses conséquences. C'est-à-dire qu'à chaque moment du circuit symbolique de la lettre, c'est-à-dire tous ces moments de permutation d'une personne à l'autre, chacun devient un autre homme. C'est-à-dire qu'il y a une transformation qui se crée en la personne. Ça fait réagir la personne. Il se produit une transformation, consciente ou inconsciente. Cette lettre, qui est une parole adressée à la reine par quelqu'un, un duc, à qui est-elle vraiment adressée ? Réponse de Lacan. Dès lors que c'est une parole, elle peut avoir plusieurs fonctions. Elle a la fonction d'un certain pacte, d'une certaine confidence. Peu importe qu'il s'agisse de l'amour du duc ou d'un complot contre la sûreté de l'État. La lettre est là, dissimulée dans une espèce de présence-absence, prise donc dans un circuit symbolique. Ça se rapproche de ce qu'on disait du Forda l'autre fois. On dit circuit symbolique parce qu'elle passe de main en main, Elle est présente, absente, elle circule, voilà. Présente chez l'un, absente chez l'autre, présente chez l'un, absente, voilà. C'est tout un circuit symbolique. Eh bien, circuit symbolique, permutation, transformation, ce sont des termes que nous retrouverons également pas à pas au fil de la lecture du séminaire 4, à travers l'étude du petit Hans de Freud et de ses mythes. Tout comme dans la lettre volée de Pau, nous verrons en quoi le déploiement de la phobie du cheval chez Hans est compréhensible et analysable d'un point de vue structural, en partant des signifiants de Hans qui circuleront du début à la fin de l'analyse, tout en subissant également des permutations et des transformations. Quand on dit ça, on comprend un peu mieux aussi, enfin en partie, mais pas uniquement pour ça, pourquoi Lacan s'est intéressé au conte d'Edgar Poe, la lettre volée, et qu'il en parle dans le séminaire 4. Il n'en parle pas que pour ces raisons-là, mais entre autres. Revenons donc à notre petit Hans. Nous en étions restés dans la lecture de la séance précédente, de décembre, dans le développement du cas, à la période où Hans était tout le temps en train de fantasmer le phallus imaginaire, d'interroger sa mère sur la présence du phallus chez elle, chez le père et chez les animaux. Nous savons, pour rappel, qu'Hans aime beaucoup son père, il est loin de redouter de sa part la castration. Hans est également l'objet des soins les plus tendres de sa mère. Elle lui passe tout, absolument tout. Car, malgré les remarques du père, les choses n'en continuent pas moins. « Ce père est hors du coup, » dit Lacan. Ne le frustrant de rien, la mère a cependant, un an auparavant, interdit à Hans de se masturber. « Si tu te masturbes, on fera venir le docteur A qui te la coupera. » Malgré cela, Hans persévère, sans ressentir la moindre angoisse. Petit rappel, je reprends dans quelques phrases ce que Anne nous a résumé tout à l'heure. Durant la période oedipienne, la mère est objet symbolique, tout autant qu'objet d'amour. L'enfant s'inclut dans la relation comme objet de la mère. Il lui offre le phallus et s'identifie comme tel au manque de la mère. Alors, à partir d'un certain moment, Hans marque un grand effroi devant un objet privilégié, le cheval, dont la présence était déjà annoncée dans le texte de façon métaphorique quand l'enfant dit à sa mère « Si tu as un fait pipi, tu dois avoir un très grand fait pipi comme un cheval. » Il dit ça avant la phobie. Le fait que l'image du cheval apparaît à l'horizon indique déjà que l'enfant se prépare à entrer dans la phobie. Le caractère essentiellement symbolique du fait pipi se manifeste chez Hans quand il va l'exhiber dans le noir. Il le montre comme objet caché. C'est bien pour ça qu'il est objet symbolique. Il s'en sert aussi comme élément intermédiaire dans ses relations avec les petites filles. Que se produit-il alors pour Hans au moment du déclenchement de sa phobie ? Lacan nous parle dans le séminaire 4, page 240, d'un détail qui a toute sa signification. Lorsque Hans a 3 ans 9 mois, la petite sœur est née 3 mois auparavant. Il mettra 6 mois à s'habituer à la présence de la petite sœur. Hans fait alors un rêve qu'il raconte à son père. Hans rêve qu'il est en Autriche avec une petite camarade de 13 ans, Marilde. Le père raconte le rêve à la mère, devant Hans. Et Hans fait une très jolie rectification. « Je n'étais pas seulement avec Marilde, mais tout seul avec Marilde. » C'est-à-dire qu'on peut être avec elle tout à fait tout seul. Ne pas avoir comme avec la mère cette intruse, la petite sœur. Cette intrusion réelle de l'autre enfant précipite l'angoisse chez Hans, car il n'est plus seul avec la mère. Quelle que soit la situation réelle, l'enfant n'est jamais de toute façon seul avec la mère, car l'enfant n'intervient jamais que comme substitut à ce qui manque à la femme. Qui dit substitut implique bien un autre ou des autres éléments de remplacement, de substitution. La situation entre la mère et l'enfant comporte que quelque chose d'autre que l'enfant est désiré par la mère, au-delà de lui-même, au-delà de l'objet du plaisir qu'il se ressent d'abord être lui-même pour sa mère et qu'il aspire à être. Lacan dira, page 241, « L'enfant ne donne à la mère qu'une satisfaction provisoirement substitutive. » Je trouvais ça très joli, cette. « L'enfant ne donne à la mère qu'une satisfaction provisoirement substitutive. » C'est sur cette base que se conçoit toute nouvelle béance, question, de son rapport à la mère, de la place qu'il occupe pour elle. Tout ceci, à quel moment ? Au moment de la maturation génitale réelle, avec l'introduction de la masturbation, de l'entrée en jeu de sa jouissance réelle, avec son propre pénis réel. Toute cette situation nouvelle, nous dit Lacan, est à concevoir dans une référence intersubjective, c'est-à-dire entre différents sujets et de ce qui est arrivé pour chacun d'eux dans les relations. Or, dans toute situation intersubjective, telle qu'elle s'établit entre la mère et l'enfant, nous avons une question préalable à nous poser, dit Lacan. Cette question se réfère à deux termes, métaphore et métonymie. Je vais développer lentement ce passage qui n'est pas forcément simple à comprendre. Métaphore et métonymie nous renvoient à la notion de substitution, dont nous parlions tout à l'heure, lorsque nous disions que l'enfant ne donne à la mère qu'une satisfaction provisoirement substitutive. De quoi s'agit-il ? Pardon. De quoi s'agit-il à travers ce terme de substitution ? Lacan dit, page 242, il ne s'agit pas de substitution réelle, mais de substitution signifiante et de savoir ce qu'elle signifie. Il s'agit en quelque sorte de savoir quelle est la fonction de l'enfant pour la mère et la fonction de l'enfant par rapport au phallus, objet du désir. La question sera alors, dit Lacan, métaphore ou métonymie ? Je vais développer. Premièrement, concernant la métaphore, première question si vous voulez, est-ce que l'enfant est la métaphore de l'amour de la mère pour le père ? Je reprends, est-ce que l'enfant est la métaphore de l'amour de la mère pour le père ? Autrement dit, traduisons un peu, est-ce que l'enfant vient se substituer au père comme objet d'amour de la mère ? Deuxième question. Est-ce que l'enfant est la métonymie du désir du phallus de la mère ? Autrement dit, est-ce que l'enfant vient se substituer à l'objet phallique désiré par la mère ? Dans le cas du petit anse, nous dit Lacan, tout dans la conduite de la mère avec le petit anse, qu'elle traîne partout avec elle depuis les WC jusqu'à son lit, indique que l'enfant est indispensable. Elle trouve même le moyen, dit-il, de changer sa culotte devant son enfant. L'enfant est donc déjà pour la mère la métonymie du phallus. Cela ne veut pas dire qu'elle ait pour autant de la considération pour le phallus de son enfant. Il ne faut pas interpréter ça, c'est pas la mère qui va aller tripoter son gamin. Pas là-dedans. On voit bien ce qu'elle lui dit quand il se masturbe. Ça ne l'intéresse pas trop, la mère. Mais l'enfant pris comme une métonymie du désir du phallus de la mère ne veut pas dire que ce soit donc en tant que phallophore, mais qu'il est métonymique en tant que totalité, c'est-à-dire la partie prise pour le tout. C'est-à-dire l'enfant est tout pour le sujet maternel. Et c'est bien là que s'établit le drame, car c'est l'enfant tout entier qui est en cause dans le désir de la mère. Il est l'objet de la mère. Et c'est à ce moment que commence à se produire l'angoisse chez Hans. Moment où Hans peut mesurer toute la différence qu'il y a entre ce pourquoi il est aimé et ce qu'il peut donner, qui ne peut que décevoir la mère, l'insatisfaire et la diviser. L'enfant découvre donc qu'il ne suffit pas à colmater le trou, c'est-à-dire le manque de phallus de la mère. Il est donc un substitut qui ne suffit pas. Cela fait émerger chez Hans que la mère puisse chercher un autre substitut que lui ailleurs, et donc se passer de lui, se séparer de lui. Il s'imagine alors comme néant pour la mère, comme rien du tout. Nous retrouvons des traces de ce fantasme, du néant pour la mère, d'être comme néant pour la mère, dans un rêve dont il se réveille en sanglotant parce que sa mère allait partir sans lui. C'est bien quand il est séparé de sa mère et qu'il est avec quelqu'un d'autre que ses angoisses se manifestent. Freud souligne que l'angoisse survient d'abord et que s'instaure ensuite la phobie. L'angoisse surgit bien quand Hans se sent tout d'un coup comme complètement hors de jeu. Alors, Hans se met à avoir peur de quoi ? Lacan précise, non pas du cheval en soi. On trouve ça page 245. C'est pas la peur du cheval en général, mais la peur des chevaux. Il y a des chevaux de toutes sortes. Il y en a qui ont du noir. Enfin bon, je ne vais pas tout reprendre le cas du petit Hans. Hein. Il a peur des chevaux dans certaines circonstances, en fonction de ce qu'ils font, en fonction de là où ils le trouvent. Enfin voilà, il y a plein de choses à dire autour des chevaux. Le monde lui apparaît donc ponctué de toute une série de points dangereux, de points d'alarme qui le restructurent, dira Lacan. Je vais m'expliquer. Cette phobie chez Hans introduit dans son monde une structure avec au premier plan la fonction d'un intérieur et la fonction d'un extérieur. J'explique tout ça. Donc, la fonction d'un intérieur, Lacan nous dit, l'intérieur, ça peut être le dans la mer, le dans la maison, hein, puisqu'il a évidemment les chevaux, il n'y en a pas dans la maison. Hein. Les chevaux, ils sont à l'extérieur de la maison. Il n'a plus que la maison, où là, il n'y a pas les chevaux quand même. Donc, l'intérieur, il faut entendre qu'il s'agit du dans la mer, dans la maison. L'extérieur, bien sûr, ce sera ce qui est en dehors de la mer, sans elle, et en dehors de la maison. Donc, cette phobie chez Hans introduit dans son monde une structure avec au premier plan la fonction d'un intérieur et d'un extérieur. L'enfant était en quelque sorte dans l'intérieur de la mère, d'où il s'imagine en être rejeté tout d'un coup, quand il devient néant pour elle. Il sombre alors dans l'angoisse, et le voilà qui, grâce à la phobie, ça, on va le commenter. On dit bien « grâce à la phobie ». Instaure un nouvel intérieur et extérieur qui restructure son monde. Alors la peur, puisqu'on dit « grâce à la phobie », la peur est alors apparemment plus rassurante, plus gérable que l'angoisse. Nous comprenons alors déjà un peu pourquoi il est souhaitable, lors de l'apparition d'une phobie, chez un enfant, même un adulte, de ne pas vouloir la faire disparaître rapidement, à tout prix, comme dans certaines thérapies dites rapides. Elle est utile pour le sujet, la phobie. Cela ne veut pas dire non plus qu'il ne faut rien faire et laisser seul le sujet aux prises avec sa phobie, son symptôme. ne pas la faire disparaître tout de suite, rapidement, ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Dans certains cas, une phobie peut aussi complètement paralyser un sujet, le couper des autres. Hans ne voulait plus sortir de chez lui, par exemple. Mais il s'agit plutôt d'analyser ce que recouvre cette phobie et d'aider le sujet, à partir de là, à restructurer son rapport au monde extérieur. On reprendra tout cela par la suite. Lacan nous dit, page 246, « Dans le conflit névrotique, la peur intervient comme un élément qui défend en avant et contre quelque chose de tout à fait autre qui est, par sa nature, sans objet, à savoir l'angoisse. Donc, la peur est une défense contre l'angoisse. Donc, la peur provenant de la phobie, elle a une fonction. » Elle est utile. En d'autres termes, nous ne pouvons dire a priori, d'emblée, ce qui nous angoisse. Quelqu'un est angoissé, je suis angoissé. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas toujours. Si on a peur, c'est plus facile d'en parler. Voilà ce que la phobie nous permet d'articuler quant à l'angoisse. Elle permet de toucher de près le point d'angoisse ou les points d'angoisse du sujet. À la lecture du petit Hans, nous avons affaire tout d'abord à toutes sortes de fantaisies romancées autour de sa phobie. Nous entrons alors dans le chapitre 15 du séminaire qui nous occupe ce soir, « À quoi sert un mythe ?» La phobie de Hans prendra cette première forme. La peur d'être mordu par un cheval. Aux prises avec son angoisse, Hans affronte l'énigme. Qu'est-ce que désire la mère quand elle désire autre chose que moi, l'enfant ? Hans tente de répondre à cette question en élaborant une construction mythique où le mythème cheval sert de pivot. Le mythème, qu'est-ce que c'est ? C'est une unité de la construction mythique. On peut dire... C'est un petit bout de texte, c'est un petit bout du mythe. Si bien que chaque bout de texte, de mythème, a la faculté de restituer l'ensemble du texte. Le mythe a donc une structure. Et on se rend compte, à travers le cas du petit Hans et même des mythes en général, qu'il existe une surprenante unité entre les mythes, bien qu'ils puissent paraître les plus éloignés. Le premier intérêt de l'étude des mythes pour Lacan, c'est quoi au fond ? C'est ceci. C'est de livrer une parole du sujet. Mais, comme toute parole, elle introduit la dimension de l'erreur et du mensonge. C'est pourquoi les mythes ont un caractère de fiction. Fiction qui a un rapport singulier avec la vérité. On voit bien, quand on reprend le texte du petit Hans, de Freud, que parfois Hans dit des choses, puis non, c'est pas ça, non, c'est autre chose, mais je voulais dire ça. Enfin, ça c'est, voilà, il ne faut pas essayer de chercher la vérité forcément dans tout ça, sinon enfin, ça n'a pas de sens. Hein, il pourra même dire, je vous ai dit tout ça, mais en réalité, n'en tenez pas compte, ça, c'est, je vous ai dit ça comme ça, puis il rigole. C'était, enfin, comme disent parfois les enfants, non, mais je t'ai dit ça, c'est une blague. Voilà. Donc le mythe est aussi atemporel, comme l'inconscient. Il est dans le temps et hors du temps à la fois. Il a aussi un caractère d'inépuisable, d'où l'aspect romancé, sa forme littéraire, qu'on retrouve bien dans le cas du petit Hans. Lacan nous dit, page 252, « Depuis le temps que je vous parle de Hans, vous avez pu vous apercevoir que si cette observation est un labyrinthe, voire au premier abord un fouillis, c'est en raison de la place qui tiennent toute une série d'élucubrations du petit Hans, certaines très riches, qui donnent l'impression d'une prolifération et d'un luxe. Nous assisterons effectivement à toute une mise en série des mythes de Hans, pris dans un circuit logique et symbolique. Il s'agit d'une véritable topographie, dira Lacan. Ces mythes subiront au fil de l'énonciation des transformations et des permutations. Remarquez que nous retrouvons ici ces trois termes dans ce que je viens de dire. Circuit symbolique, permutation, transformation. Que nous avions introduit pour parler de la lettre volée et notamment de l'analyse qu'en fait Lacan. Eh bien, ces trois aspects, ces trois, disons, caractéristiques des mythes, le fait d'être pris dans un circuit symbolique, de subir des transformations, des permutations, ces trois caractéristiques que nous retrouvons dans les mythes de Hans seront développées dans les séances ultérieures du séminaire 4. Lacan dit, page 254, « L'activité mythique est employée chez Hans, on pourrait même rajouter, et chez l'enfant en général, parce qu'il s'agit d'aborder les thèmes de la vie, de la mort, de la naissance et du sexe. Dans l'analyse des mythes de Hans, nous aurons une idée du poids, de la présence, de l'instance du signifiant comme tel, de son impact propre, même si en soi il ne signifie rien apparemment. Il est porteur de tout un ordre de signification. Nous verrons également en quoi, par la suite, dans le séminaire 4, le signifiant cheval, pivot central des mythes de Hans, n'a pas une signification univoque, mais plurielle. Tantôt le cheval sera la mère, sera Hans, le père, le pénis. Voilà, ça changera. Mais ce signifiant même subira aussi des permutations, des transformations. Hans raconte d'abord toutes sortes de fantaisies romancées dans l'étude du cas du petit Hans, on retrouve bien ça, sans que ce soit pour autant une production délirante, ce n'est pas du délire, mais bien plutôt une production de jeu, pouvant tourner même à la farce, comme si vous l'avez en tête, l'exemple de la cigogne et de la naissance de la petite sœur, tout ce qu'il raconte à ce sujet. Il terminera par dire à son père, et puis ce que je viens de vous dire là, enfin n'y croyez pas, enfin n'y croyant sans doute pas lui-même. Après les productions romancées, le ton change à la suite des interventions massives et très suggestives du père réel, subordonnées bien entendu à celles de Freud, mis en place de pères symboliques. Ces romances prennent alors brusquement les traits de mythe. Je vais vous lire un passage. Le passage auquel j'ai donné un petit sous-titre, « La mise en serre chaude ». J'ai trouvé ça qui est repris dans le texte. Donc jusqu'ici, on avait toutes ces fantaisies romancées. Enfin, ça, il faudrait retourner lire hein, dans le cas de Freud. Voilà. Puis, le père s'agace en même temps, un peu agacé, comme ça que les choses ne changent pas. La phobie perdure, voire même s'aggrave. Alors, donc page 258. Hein. Donc, nous voyons tout au cours de l'observation le petit Hans réagir à l'intervention du père réel. Sa mise en serre chaude sous les feux croisés de l'interrogation paternelle se montre avoir été favorable chez lui à une véritable culture de la phobie. Rien ne nous permet de penser que la phobie aurait eu de tels prolongements et de tels échos sans l'intervention paternelle, ni même qu'elle aurait eu en son centre ce développement, ni cette richesse, ni même peut-être cette insistance si pressante pendant un certain temps. Freud lui-même admet et reprend à son compte qu'il y ait pu y avoir momentanément une flambée, une précipitation, une intensification de la phobie sous l'action du père. Nous voyons bien, quand on lit Lacan et quand on lit ce que Freud dit lui-même dans le cas qu'il analyse, via le père, que Freud n'était pas pour la disparition rapide, à tout prix, lico de la phobie de Hans. Hans s'affronte alors à quelque chose qu'il ne peut résoudre dans son langage quotidien. C'est important, ça. Il se pose cette question, cette énigme quant à la mère, et, on dit bien, dans son langage quotidien, avec les réponses, les questions qu'il se pose et les questions qu'il essaie, les réponses qu'il essaie d'apporter à ses propres questions, il n'arrive pas à trouver la solution à cette énigme. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il crée ses mythes comme énoncé de l'impossible. De l'impossible à dire. Après le cauchemar dans lequel sa mère est partie, il prendra peur lors de la promenade quotidienne avec la bonne, sans pouvoir dire pourquoi. Ce n'est seulement plus tard qu'il confiera à sa mère qu'il a peur qu'un cheval ne le morde. Cette peur-là venait déjà amorcer sa phobie. La situation dans laquelle se trouve Hans, situation où il est donc l'objet tout entier de sa mère, est sans issue, sauf à emprunter la voie du complexe de castration. Hans se situe donc au point de rencontre de la pulsion réelle, avec la masturbation, et du jeu imaginaire, du leurre phallique par rapport à sa mère. Il pense qu'il va pouvoir la combler. Deuxième petit rappel par rapport à ce qui a été dit la séance précédente. La castration est une fonction symbolique. Le père réel la met en œuvre. Elle porte sur le phallus, objet imaginaire, et non sur le pénis réel. La castration mettrait fin au complexe d'Œdipe, chez Hans, à l'identification leurrante au manque de la mère, et permettrait au sujet de se positionner comme porteur du phallus en attente de son usage légitime à l'âge adulte. Mais rien de tel ne se produira pour Hans, car le père réel est carent, dit Lacan. Son Œdipe ne peut dès lors se résoudre par le complexe de castration. Pour y suppléer, il va devoir trouver une autre solution qui sera la construction de ses mythes partant de sa phobie. Voici en quoi la phobie est utile et ce que nous pouvons travailler avec le sujet, l'aider dans la construction de ses mythes. Jacques-Alain Miller, dans un article qui s'intitule « La logique de la cure du petit Hans selon Lacan ». On trouve cet article dans la revue de l'École de la cause freudienne, numéro 69. Je le cite. Ce que l'on obtient avec la cure du petit Hans, c'est la solution de l'impossible. C'est une résolution curative. Il poursuit. La cure est fondamentalement la transformation de A, de grand A, en A barré, A divisé, en rapport avec la castration. Ou aussi le passage de l'imaginaire au symbolique. C'est ainsi qu'on pourrait résumer la cure du petit Hans, dit-il, comme un processus de symbolisation. Il s'agit d'un processus de symbolisation et sur un élément essentiel, le phallus. Il s'agit dans cette cure, pour soigner le symptôme phobique, donc il faut bien en faire quelque chose, il y a quelque chose à soigner, il faut soutenir le sujet par rapport à sa phobie. Donc il s'agit dans cette cure, pour soigner le symptôme phobique, que le pouvoir symbolique du signifiant père se substitue au pouvoir imaginaire de la mère, qu'on peut reprendre avec le mathème, je pense que je l'ai écrit, oui, tout là-haut, hein. Désir, nom du père, donc... sur le désir de la mère, le nom du père qui vient se substituer au désir de la mère. Donc, nom du père symbolique qui se substitue au désir de la mère imaginaire. Lacan nous dit que dans le cas du petit Hans, la métaphore paternelle ne se constitue pas de façon pleine. Bien, donc, il ne dit pas qu'elle ne se constitue pas du tout, hein. La métaphore paternelle ne se constitue pas de façon pleine, mais de façon oblique, déviée. Elle est quand même un peu présente. Nous ne sommes pas dans la psychose. À la suite de Freud, dans Inhibition, symptômes et angoisse, Lacan dit que le symptôme phobique a le rôle du nom du père. Il va jusqu'à dire ça. ça a le rôle du nom du père. Jacques-Alain Miller toujours précise que le nom du père et le symptôme ont quelque chose à voir l'un avec l'autre, dans la mesure où l'un peut remplacer l'autre, peut se substituer à l'autre. Si le nom du père est un symptôme, cela n'empêche pas qu'il puisse être aussi pathologique. Le nom du père peut être pathologique, peut être carent, peut être... Enfin voilà, hein, il n'agit pas de façon pleine, mais de façon déviée, oblique. La position de Lacan, dans ce séminaire, est que le petit Hans élabore un petit nom du père. Donc il n'élabore pas tout le nom du père, hein, mais un petit nom du père. La phobie a sa réelle utilité en tant qu'elle devient un symptôme élaboré, construit. Et non pas, on pourrait dire, la phobie à l'état brut, imaginaire, où on n'en ferait rien. Lacan dit bien qu'il s'agit de tout un processus de symbolisation. Donc on voit bien que la position de Freud et de Lacan n'est donc pas de faire disparaître la phobie, on pourrait dire à l'état brut, au stade purement imaginaire, telle qu'elle apparaît, ni non plus de la laisser telle qu'elle en plan, et de laisser le sujet en plan avec ça. Mais bel et bien d'aider le sujet à œuvrer vers ce processus de symbolisation qui rendra, disons, le symptôme phobique viable pour le sujet s'il est encore présent. C'est-à-dire il pourra vivre avec. À la fin du chapitre 15 de ce séminaire, Lacan développe un petit exemple d'exaucement de l'imaginaire au symbolique chez Hans. Exemple qui d'ailleurs peut paraître tout à fait anodin. Suite aux injonctions du père de Hans sur le fait que les femmes n'ont pas de phallus, Hans va réagir par le fantasme des deux girafes qu'on retrouve dans le cas développé par Freud. Donc le père lui serine plusieurs fois, je t'ai déjà dit, tu sais bien, les femmes n'en ont pas, n'ont pas de pénis, enfin voilà. Mais le père a beau dire ça, Hans continue de plus belle. Hein. Alors voilà ce qui va se passer, nous arrivons au fantasme des deux girafes. Alors, ces deux girafes, qu'est-ce que c'est? Donc, comme les enfants souvent qu'on reçoit, ils dessinent, ils s'expriment des signes. Bien, sur une feuille, Hans avait dessiné une grande girafe. Lacan dira que c'est le symbole du père. Et il dessinera également sur une autre feuille une petite girafe. Que l'enfant va tout simplement. Donc il dessine une petite girafe, il va la rouler en boule, il va en faire. Il va la chiffonner, la rouler en boule, et il va s'asseoir dessus. Lacan dira. Cette petite girafe, on peut dire que c'est le représentant de la mère. Hans, c'est une façon pour Hans de reprendre ainsi possession de la mère en s'asseyant dessus. C'est cette mère qui lui échappe. Lui, il la roule en boule et s'assoit dessus. La petite girafe est ainsi le double de la première. La petite, c'est aussi bien la mère, mais on peut dire que c'est aussi bien Hans qui est pris dans sa totalité comme le phallus de la mère. L'enfant, en phallicisant la mère tout entière, sous la forme d'un double, il fabrique ainsi une métonymie de la mère. En d'autres termes, ce qui n'était que jusque-là que la représentation imaginaire du phallus énigmatique et désiré pour Hans. Donc, et représentation imaginaire, on peut l'entendre, ce qu'il n'avait représenté jusqu'ici que sur une feuille de papier, dont il n'en avait rien fait pour le moment. Eh bien, Hans franchit le pas de l'image au symbole, c'est-à-dire qu'en chiffonnant cette feuille, en la roulant, en s'asseyant dessus, il peut ainsi en user comme on peut user d'un symbole. Donc, de cette représentation imaginaire du dessin de la girafe, qu'il transforme en symbole, il met en œuvre des petits actes symboliques, chiffonner, rouler, s'asseoir dessus, qui vont l'aider à se dégager du leur imaginaire dans lequel il était pris avec sa mère. Tout au long de l'étude de Hans, nous allons trouver toute une petite série de structures, d'instruments logiques, qui se complètent les uns les autres, en formant une espèce de cercle, on pourrait dire aussi de circuit, à travers lequel Hans circule et cherche la solution autour de cette triade mère, enfant, phallus. Voici un autre exemple. Hans va introduire dans un de ses mythes un instrument logique, la vis, qui lui permettra de mettre, d'enlever et de démettre son pénis. D'où l'introduction du mythe qu'on peut intituler le mythe du plombier et de la baignoire. Je reprends les paroles du petit Hans dans le texte. Voici ce qu'il dit. « Je suis dans la baignoire, alors le plombier arrive et la dévisse. » Dans un second temps, il en reparle du plombier et de la baignoire. Voici ce qu'il dit dans un second temps. « Le plombier est venu et m'a d'abord enlevé le derrière avec des tenailles et la même chose avec mon fait pipi. Il m'a donné un plus grand fait pipi. » Donc, on voit bien que si le pénis n'est pas enraciné, il n'y a plus rien. Et c'est pourquoi il faut une médiation qui permette de mettre le pénis, de l'ôter, de le remettre grâce à la vis. Ce petit élément mythique, qui paraît infime, la vis, va amener la véritable résolution du problème à travers la notion que le phallus est aussi pris dans le jeu symbolique combiné, soit en étant fixe, amovible, circulant, et également élément de médiation, comme il faisait déjà avec les petites filles, ces jeux avec les petites filles. Donc, pour conclure, à quoi sert le mythe ? C'était le titre de ce chapitre 15. Bien, ce soir, nous venons d'avoir un aperçu à travers l'observation de Hans et de sa phobie, que le mythe participe à l'élaboration du processus de symbolisation de l'impossible à dire, de ce qui fait énigme, des questions sans réponse dans le quotidien du monde qui entoure Hans. Voilà.
Bien, merci. Je vais peut-être, comme à l'habitude, essayer d'exprimer un peu les questions qui sont venues en vous écoutant. Mais justement, sur la fonction du mythe, dont on voit aussi les variations au cours de... du cas, il y a quelque chose qui me fait question au fond entre ce qu'on appelle en d'autres endroits le mythos et le logos, ce qui est de l'ordre du mythe et ce qui serait de l'ordre du langage, et ce passage au fond de l'un à l'autre en me disant que a priori pour moi le mythe c'était justement une explication toute faite, fermée, qui, a priori, n'était pas là pour bouger ni pour être mise en question, au sens grec du terme, j'ai envie de dire. Et que dans la culture de la Grèce antique, ce passage se fait à un moment historique bien particulier, vers le logos, à un moment, au fond, où les hommes se réapproprient le questionnement. Et donc, j'ai envie de dire l'interprétation également. Or, ici, à la fois ces mythes valent pour construction qui, à un moment, viennent répondre à l'impossible à dire, et à la fois, ils ne sont pas tout à fait fixes. Ils bougent, il y a une possibilité de bouger, une possibilité d'explication. Ils ne viennent pas comme une imposition. Mm-hmm. Contrairement, je dirais, à la version plus grecque classique du mythe. Et je pense que ça pose la question de toute la place de l'interprétation possible ou pas selon la structure psychique du sujet. Mm-hmm. Voilà. Ça, c'était peut-être une première réflexion en entendant parler ce soir finalement des constructions mythiques.
Alors, ce qui est pour commenter un petit peu en même temps sans forcément vraiment répondre, mais mythos et logos, le mythe et le langage, ce qui est important de retenir par rapport au mythe, c'est effectivement quand le sujet parle, comme on disait tout à l'heure au début de la conférence, la loi vient avec le signifiant. Hein? Donc ça, voilà. Au fil des énoncés, au fil des énoncés, par exemple, du petit Hans, les choses ne sont pas fixes. Hein? Il va donner telle interprétation, par exemple, du cheval. Le cheval, ça va être le père. Puis le cheval, ça va être la mère. Puis le cheval, ça va être lui-même. Enfin, voilà. C'est un petit peu... quand je disais, j'ai retracé un petit peu au tableau un petit peu les éléments pour aider à la compréhension. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à retenir par rapport au mythe aussi? Et on dit bien que le mythe est aussi atemporel. On pourrait dire comme l'inconscient.
Oui.
Ce qui est important à saisir par rapport au mythe, on pourrait penser que les choses sont fixes. Ce qui est important à retenir aussi, c'est le rapport à la vérité. Les mythes sont à entendre aussi, enfin, c'est à entendre comme une fiction. Voilà. Donc... comme dit Lacan, chaque fois qu'on parle de fiction, c'est un rapport singulier à la vérité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher, prouver, par exemple dans le cas du petit Hans, pour être assez pragmatique, si ce qu'il dit est vrai. Lui-même, il peut dire, enfin c'est assez rigolo, amusant à lire, il me dit non mais ça, je dis ça comme ça, ou quand on reçoit travailler avec des jeunes enfants, bon, je dis bien névrosé, je parle bien dans le cadre de la névrose, hein, soyons bien clairs. Les enfants des fois racontent des trucs, enfin, où ils disent oh, ça c'est des carabistouilles, c'est une blague, mais n'empêche que même si c'est une blague, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Encore eu le cas tout à l'heure, un petit enfant que j'ai reçu de 6 ans, il me dit il parle du map monde, une map monde, apparemment on peut appuyer sur des touches, et la map monde parle, répond, enfin bon, on fait tout maintenant. Hein, et la map monde, elle se trompe. Il me dit la map monde se trompe. Mais après, bien sûr, je reçois la maman, enfin, cinq dernières minutes par là, puis il questionne sa maman. Et il dit, maman, pourquoi la map monde se trompe? Alors sa maman dit, ta map monde, elle marche bien, elle ne se trompe pas, qu'est-ce que tu vas raconter là? Non, mais c'est pas grave. Hein. Mais qu'est-ce qui était l'essentiel dans la séance de ce qu'il a dit? Il voulait interroger le fait que son père puisse se tromper. Voilà. Peu importe que la map monde fonctionne, dysfonctionne, c'est pas. C'est les signifiants avec lesquels il vient. La vérité qu'il interroge, qu'il questionne. Voilà. Peut-être que quand je le reverrai, il va me reparler. Il va me l'amener d'ailleurs. Il va me l'amener. La prochaine fois, il va m'amener sa map monde, s'il le souhaite. Mais bon. Voilà. Qu'elle marche ou qu'elle ne marche pas, je ne vais pas chercher à vérifier si la map monde marche ou pas. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit. Peut-être qu'il va me dire tout autre chose la prochaine fois, ou peut-être même qu'il ne va pas l'amener, ou peut-être qu'il n'en parlera plus. Il va passer peut-être à autre chose. Je ne sais pas si ça répond un peu, j'essaie de répondre un petit peu de matière pragmatique et clinique. Là, je sais pas si ça...
Et peut-être voilà. Aussi alors une autre question beaucoup plus pragmatique et sans qu'elle soit généralisée, mais c'est plutôt du côté de l'expérience clinique alors que je pose cette question-là. Au fond, vous avez bien montré l'importance de ne pas faire bouger trop vite ou faire disparaître trop vite la phobie et comme en tant que symptôme. Mais je suppose qu'on rencontre des enfants qui n'arrivent pas pour la première fois chez un psychologue ou un psychothérapeute et où ce genre de tentative a déjà été dans la relation thérapeutique où a déjà été tentée, j'ai envie de dire.
J'ai pas saisi.
Donc je veux dire, si un enfant présentant un symptôme phobique consulte, mais qu'il l'ait passé précédemment chez un autre psychologue ou par une autre institution. Mm-hmm. On a essayé justement de faire bouger trop vite ce symptôme. Oui. Est-ce que vous avez déjà rencontré des situations dans votre pratique clinique ?
Concrètement parlant, comme ça, dans ma pratique, non, j'ai pas rencontré. Mais oui, on peut se poser la question. Alors, qu'est-ce que... je veux dire... et en même temps, si. Je pense à des plus au niveau institutionnel, là, où parfois, des enfants viennent d'ailleurs ou consultés, parfois plus... dans des endroits, disons, qui sont plus sur le versant, on va dire, de la rééducation pure.
Oui.
On va faire disparaître un certain symptôme, mais même que ce soit au niveau du langage. Ça, j'ai envie de dire, ça ne concerne même pas que la phobie. Ça, pour moi, c'est, ça concerne sur tout symptôme. Déjà vu un enfant, moi, qui allait un an chez un orthophoniste parce qu'il fallait à tout prix qu'il parle bien, mais correctement, mais il avait un petit, léger, vraiment minime, des défauts de prononciation, mais apparemment... Ça titillait fort, même pas la mère, mais la grand-mère maternelle qui, elle, avait été institutrice. Enfin, voilà, il fallait à tout prix qu'il n'y ait plus cette petite, léger mini-trouble. Bon, bien sûr, après, il a plus confondu les peu, les beux, mais bon, il est devenu dyslexique. Voilà. Voilà. Ça se déplace. Je veux dire, l'enfant... inconsciemment, hein, c'est pas calculé. L'enfant, inconsciemment, va trouver, autre chose va se manifester. Et c'est nécessaire, il y a la nécessité de l'apparition du symptôme. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions ?
En attendant, je peux peut-être commenter un petit peu pourquoi j'ai mis l'accent sur le fait que quand on dit, bon, peut-être que tout à l'heure, quand je parlais des thérapies comportementalistes brèves qui peuvent agir vite, il faut vite supprimer, en temps de séance, on va... Bon, il ne faut pas croire, parfois on entend des étudiants à l'université qui entendent ça et qui s'imaginent, donc lui, le psychanalyste, il fait rien, quoi. Il reçoit et puis... la personne est phobique, on la laisse avec ça. Il ne s'agit pas que le psychanalyste laisse l'enfant ou l'adulte dans une phobie terrible. C'est pour ça que je disais bien une phobie. Enfin, même le petit Hans, c'était apparemment, il ne pouvait plus sortir de chez lui. Enfin, c'était surtout les choix à l'époque. Il y avait quasiment que ça en rue. Hein. Il n'est pas allé trouver, le géant qui sort une fois par an. C'est vraiment quelque chose qu'il rencontrait quotidiennement. Donc ça peut vraiment invalider. Il ne s'agit pas de ne rien faire. Hein, quand on dit ça, c'est parce que parfois, il ne s'agit pas de dire, le psychanalyste, il reçoit un enfant phobique, un adulte phobique, mais nous, on ne touche pas à la phobie. Non, ce n'est pas qu'on ne touche pas à la phobie, c'est qu'on procède différemment. Il ne faut pas mettre le couvercle là-dessus trop tôt, parce que ça empêche le déroulé, ça empêche de venir toucher au point d'angoisse. On voit bien que l'angoisse est les premières à la phobie. Donc, il s'agit d'aller traiter ce qu'il en est aussi de l'angoisse. Voilà, et c'est bien en traitant... petit à petit ce qu'il en est dans l'angoisse, que très souvent, le symptôme phobique disparaît ou devient beaucoup plus viable.
C'est opérer un décalage.
Oui, tout à fait. Oui.
Oui.
Au niveau thérapeutique, concrètement, comment on fait symboliquement, comment fait-on au niveau concret?
Au niveau... Il faut partir, moi j'ai envie de dire, il faut s'intéresser aux signifiants avec lesquels, si on parle de l'enfant, ou je parle du petit garçon là de tout à l'heure, d'une part, je crois, il ne faut pas essayer de chercher à savoir si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai.
Non, l'enjeu, c'est de faire basculer, c'est de passer...
C'est de faire en sorte qu'au fil du défilé du signifiant de ce que l'enfant ou même l'adulte va amener, que l'analyse saisisse peut-être aussi. Je veux dire, il n'est pas là, pur passif, à ne rien faire, à ne rien dire. Hein. Peut-être qu'il va servir. Moi, dès que ce petit garçon, tout à l'heure, pour quitter Hans, me parle au fait, papa, il s'est trompé,
voilà, ah, papa s'est trompé. Et voilà, le faire parler de papa s'est trompé. Et finalement, il me dit, bah, il dort plus depuis 15 jours parce que papa s'est trompé sur ça. Et comme par hasard, la machine se trompe depuis 15 jours. Mais enfin bon, c'est pas la machine qui se trompe depuis 15 jours. C'est d'aller saisir, de faire... quand on dit, pour comprendre les choses au niveau des mythes, on dit qu'il existe une unité entre les mythèmes. C'est, je veux dire, c'est... Voilà, c'est à saisir, ça. Où sont les liens? Où sont les unités à... Il faut aider l'enfant à construire, à reconstruire, à restructurer. À travers ce qu'il va dire, bien sûr. Donc ça demande une écoute très, très attentive. De même que le petit Hans, quand on voit Freud et le père était finalement, on peut dire, un très grand clinicien vis-à-vis de son fils. L'histoire de la girafe chiffonnée, ça aurait pu se dire, tiens, bah, hop, à la poubelle, c'est un papier à la poubelle. Ou il n'en veut plus, mais non. Enfin, avec l'aide de Freud, qui était là par derrière, ils ont réalisé que ça avait une fonction. Donc ça demande une attention, une observation, une écoute, enfin, c'est pas... voilà. Et voilà, d'essayer d'aider à nouer comme ça tout cela ensemble. Parfois, ça peut arriver. L'enfant voulait qu'on aille chercher sa mère pour parler de cette map monde. J'ai dit, bon, tu peux aller chercher ta maman. C'est pas du systématique. C'est parce que, bon, je sentais que c'était tellement insistant. C'est pas pur caprice. Tiens, il veut sa mère aujourd'hui. Non, c'était tout à fait. Ça faisait plusieurs séances qu'il n'avait pas besoin de sa mère. Mais là, je sentais que ça touchait un point capital. Bon, ce sont des parents séparés. Enfin, bon, soit. Il y avait quelque chose à traiter à ce niveau-là.
Psychanalyse qui ne fait rien avec la phobie. Je pense qu'on pourrait dire qu'on fait même plus que rien.
Ben oui.
Tous les morts, on sait que cette phobie, le signifiant de la phobie, c'est un taux de toute façon. Allez. On moquait un peu, je dirais qu'on l'aggrave. Oui. Quand on dit d'ailleurs, en fait, c'est que le père plus Freud, vous voyez ça d'ici, donc le père et Freud qui s'y mettent à deux. Qui développe cette phobie, qui l'amplifie. Voilà ce qu'on ferait avec un symptôme d'une certaine façon. La psychanalyse a un effet qui est thérapeutique extrêmement important, mais seulement qui n'est compatible avec ce qu'on fait parce qu'on a une façon d'être, je pense, avec une efficacité thérapeutique parfois par amplification. On dit ça un peu rapidement, mais ici en fonction du. Prenez la phobie du titan, ça a été amplifié. Et ça a été amplifié, encouragé de la bonne façon.
Voilà.
Et bien qu'ils soient arrivés à lui soustraire sa charge pathologique, donc handicapante, limitante, etc. C'est qu'il a permis à Hans de vivre avec ça. Pour ça, il fallait dans le fond une espèce d'encouragement d'amplification. Parce qu'il y a tout simplement là-dedans quelque chose d'important, qui est nécessaire au petit Hans pour qu'il puisse vivre. C'est qu'il ne faut jamais oublier que le pathologique, ça c'est une... La pathologie dans ce domaine-ci, c'est vraiment, c'est la médecine d'ambulance. C'est la médecine la plus tarde qui soit. Ce qu'on ne comprend pas que, vous l'avez montré, c'est que le petit temps, il cherche une solution. Il y a une solution là-dedans. Évidemment, il faut que le clinicien puisse comprendre quelle est cette solution qui est en jeu. C'est bien pour ça que parfois que ça mérite, quand c'est bien repéré, une espèce d'amplification. C'est une solution qui doit être soutenue, complétée par le clinicien. Parce que Lacan dit, si c'est un passage dans le Lacan classique, il y a toujours un petit côté qui est amusant, c'est qu'il y a Lacan parle de la transposition de l'imaginaire dans le symbolique de la méfité. Il dit ça. Mais ça, ce sont des formes pédagogiques, parce que malgré les apparences, Lacan a des formes pédagogiques. Mais comme d'habitude, quand on fait la pédagogie, on se contredit ou on se tire une balle dans le pied, hein, parce qu'il y a quelque chose que Lacan situe, il est souligné. La grande question, quand même, c'est que le pourquoi de tout ça, il y a bien sûr papa qui avec la mère ne fait pas ce qu'il faut, etc. D'ailleurs, les courses sont. Bon. Mais enfin, il y a aussi le fait de ceci, c'est qu'il y a un problème. C'est vraiment un problème, ça. Il y a un problème auquel s'affronte Hans. C'est que le problème de l'orgasme dans la masturbation infantile, dans l'observation de Freud, c'est vraiment quand il arrive en érection devant sa mère. Sa mère donne une réponse absolument catastrophique. Ensuite, c'est vraiment un problème réel. Enfin, problème réel, le symbolique que vous avez montré, le père ne donne pas à ça, ne donne pas au gamin les signifiants nécessaires pour pouvoir faire quelque chose avec avec ce machin qui se met en enfer qu'à sa tête. Enfin, je ne fais pas de son pénis réel. Et c'est donc, c'est en ce sens-là que cette phobie est une. Pour moi, c'est important pour un garçon de se débrouiller avec son pénis. Enfin,
ça va dans le sens quand même que les parents sont fautifs, quoi. C'est pour faux quand vous dites ça. Ça n'a pas été des bons parents qui s'est passé.
Il y a toujours une causalité, j'ai envie de dire. Mais la faute, la culpabilité, je pense...
La mère n'a pas répondu, parce que le père n'a pas dit correctement. Oui, enfin...
C'est
pas
la faute des parents, que petit enfant.
Non, voilà, oui, ça c'est sûr. Oui.
C'est
voilà.
Tout
à fait. Oui.
Parce que ça, on pourrait même dire que c'est la faute des parents, mais à ce moment-là, Félix ne coule pas. D'accord. Eh bien... Ça, ce n'est pas de la faute des parents. Et d'une certaine façon...
Quand vous dites « la mère a dit ceci, a dit cela, elle n'aurait pas dû... »
Oui, c'est mon effort pédagogique. C'est une erreur.
Voilà.
C'est une erreur parce que le gamin bon, après tout, c'est la vie. Et le symbolique pour répondre à ça est quand même toujours un peu boiteux. Pour accrocher les trucs à ça, c'est toujours tordu. Alors les parents peuvent répondre. D'ailleurs, le nombre d'enfants qui ont des phobies et qui se solutionnent tout seuls. Ou dans certains cas, on voit des enfants qui ont une phobie, dont les parents peuvent se rendre compte de ça, ils ont une phobie à tel âge, et on voit dans le fond quelque chose qui s'est passé après tout, la vie leur désire bien plus tard, et bien c'est tout à fait le prolongement de cette phobie. Et tout ça, c'est résolu sans qu'on y comprenne que dalle, sinon après coup. C'est assez... Enfin, moi, je suis sensible au fait qu'il y a dans la phobie, on a une petite fille comme ça qui avait peur vraiment qu'un homme vienne l'enlever. Ben, franchement, dans son rapport à sa mère, le premier amour, bien plus tard, a été absolument... a changé sa vie. Autrement dit, le prince charmant un peu noir qui allait venir l'enlever, il ne fallait sûrement pas traiter ça de façon pathologique. Vous comprenez le... Et donc, on n'a jamais raison de trop se focaliser sur les parents, quand même, dans cette affaire. Mais oui. C'est que l'enfant bande, eh bien, je vous m'inquiète, je devrais répéter ça, mais c'est indispensable. C'est que, d'une certaine façon, le lit par rapport à ça est toujours en retard. C'est que le monde familial pour traiter de l'érection n'est qu'à jamais le meilleur. C'est quand même la famille, c'est quand même pas le monde, c'est quand même pas là où la question de la sexualité est quand même la plus développée, n'est-ce pas? Et quand même toujours à. Un couvercle pour rendre la vie familiale possible, un couvercle mis sur le sexe. C'est pas une bonne boule, c'est comme ça. Et donc, forcément, il y a quelque chose qui vient là toujours un peu en excès. Alors, les parents, ils ont toujours tort. Ils ont toujours tort parce qu'ils sont forcément toujours un peu en deçà. Enfin, eux, ils sont dans l'Oedipe. C'est leur fonction. Et la clinique, toujours, c'est l'au-delà de l'Oedipe. C'est pour ça que je souligne sur l'érection du petit ange, on est dans l'au-delà de l'Oedipe, d'une certaine façon. Il y a quelque chose qui va au-delà de l'Oedipe, toujours.
le père tout bon et la mère toute bonne, enfin, ça n'existe pas. Ou si on les rencontre, c'est plutôt inquiétant. Voilà. Donc, c'est vraiment, comme disait Philippe Hellebois, c'est de structure. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'aller du côté de culpabiliser les parents. Enfin, c'est de structure. Une mère n'est jamais suffisamment comme elle devrait l'être, un père non plus, c'est voilà. Bon.
Vos enfants auront des symptômes.
Voilà.
Hein? Oui. Et leur souhaitent. Voilà. Il faut leur souhaiter. Mm-hmm. Et toute la question est de savoir comment on va pouvoir les accepter, comment on va pouvoir les faire avec.
Voilà. C'est ça.
Quelle réponse on va apporter à ça, mais... Mm-hmm. Est-ce qu'ils pourront se débrouiller tout seuls? Est-ce qu'il faudrait un clinicien?
Voilà.
Alors là...
La question, c'est quand même, est-ce que les symptômes, c'est pathologique ou pas?
Voilà.
Si l'enfant sait se débrouiller seul avec, ben voilà... Ben, là où les parents, ben, c'est bien qu'ils interviennent ou qu'ils fassent consulter, voir un clinicien, c'est si jamais ça prend trop d'ampleur et l'enfant, ça lui rend la vie invivable. Si c'est trop invivable, sinon... oui. Les enfants qui ont peur du noir, qui ont peur des mouches, qui ont peur des... Enfin, je sais pas... du géant, des pigeons... je veux dire, c'est... Il y a un tas d'enfants qui vont plutôt pas trop mal, qui ont des petites phobies.
C'est, moi, j'aurais envie de dire que c'est à la mesure de chaque sujet, qu'il soit enfant ou adulte, tant que dans son lien social, il n'est pas gravement en difficulté.
Voilà.
Savoir si un symptôme pose problème ou pas au sujet, au fond, c'est au sujet à en dire quelque chose.
Oui, ça dépend. Il peut y avoir, moi je pense, une petite fille que j'avais comme ça rencontrée pendant quelques mois, qui n'avait pas supporté la séparation de ses parents. Petite fille névrosée, enfin, qui valait plutôt pas trop mal. Mais la maman elle-même, ayant fait un jour un travail analytique sur elle-même, s'est dit, oh là là, je sens quand même, bon, allez, je vais l'envoyer parler comme ça de tout ça. C'est la mère, là, qui était demandeuse. Voilà, mais la petite fille était preneuse de ça. Elle est venue quelques mois parler, elle n'est plus venue. Un an et demi après, il faut, j'ai quelque chose à aller dire à Madame Brou. Bon, d'elle-même. Elle avait 9 ans quand elle est venue la première fois. Il fallait à tout prix. Elle est venue me parler de quelque chose, c'était pas si compliqué que ça, mais seulement ce qui était compliqué pour elle, c'est qu'elle ne savait pas à qui elle devait en parler du fait de la séparation de ses parents. Donc c'était l'énigme de la séparation de ses parents. Finalement, elle venait parler de ça. Parce que ce dont elle voulait, c'était vraiment une... On en a même oublié le pourquoi. Mais c'était plutôt la séparation de ses parents qui faisait de nouveau énigme parce qu'une cousine, justement, venait aussi... Les parents venaient de se séparer, ça ravivait... enfin, voilà. Je crois qu'elle en a fait l'expérience un peu plus jeune. Elle a été... Et puis elle l'a redemandé. Elle est revenue quelques mois et depuis, j'ai plus de nouvelles. Mais c'est... Enfin, voilà, c'est pas... Je crois que c'est vraiment aussi au cas par cas, bien sûr. Ouais. Il n'y a pas de... Alors, de là, est-ce qu'il faut soigner? Soigner, tout dépend ce qu'on entend par soigner, quoi. Parfois, c'est quand même important que l'enfant puisse en dire quelque chose de sa phobie. C'est utile qu'il en parle, parce qu'en en parlant, justement, les choses s'élaborent et se construisent, et ça aide, ça structure. Et c'est ça qui va l'aider.
Monsieur a une question là-bas. Bien fort, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende.
L'analyse peut amplifier la phobie afin de la soustraire. J'aurais tendance à vouloir dire plutôt à l'éveiller.
Oui.
Peut éveiller quelques phobies par l'analyse et en travaillant après.
Bon, je sais pas, là je mettrais peut-être des nuances. Faire une analyse. On va pas dire que faire une analyse, le but c'est de développer une phobie non plus. Hein. On n'a pas dit ça non plus. D'ailleurs, tout le monde ne développe pas une phobie. On peut développer autre chose comme symptôme. Hein. On n'est pas tous des phobiques. Voilà.
Oui. Au fond, c'est savoir si ça peut survenir au cours d'une analyse, si je reprends comme un symptôme transitoire qui survient dans une analyse.
Oui, on se rend compte aussi, tout à fait, bien sûr.
Monsieur dit que c'est assez vaste ce travail et que si je comprends bien, il y a des nœuds qui peuvent se défaire et que ça, il peut arriver que survienne ce genre de symptômes.
Tout à fait. Oui, puisque la phobie, il ne faut pas oublier. Hein. À quoi ça touche ? À quoi elle s'articule ? À l'angoisse. Donc ça, l'angoisse, tout le monde est confronté à l'angoisse. Alors après, suivant au cas par cas, voilà,
tout
ça
monde
va pas.
Répond pas de la même façon.
Mais tout le monde est confronté à l'angoisse. Voilà, tout le monde n'y répond pas de la même façon, ça ne s'éveille pas, pour reprendre votre terme, de la même manière chez un sujet et chez un autre.
Voilà, eh bien, on se retrouve dans un mois, je pense. À bientôt, au revoir.